L'immobilier dans le bon sens, présenté par Alexandre Toussaint, président fondateur de Baltis Capital.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission numéro 4 de l'immobilier dans le bon sens. On va parler aujourd'hui d'un très beau sujet qui permet d'allier performance et action sociale. Et je reçois aujourd'hui Loïc Longchamp. Bonjour Loïc.
Bonjour Alexandre.
De chez Swiss Life Asset Manager. Merci d'avoir accepté cette invitation pour qu'on puisse échanger un peu sur vos convictions et surtout les initiatives que vous avez mises en place il y a maintenant 2 ans. Si ça vous va, pour commencer, je vous propose de vous présenter un peu votre parcours. Mmh. Avant Swiss Life Asset Manager et aujourd'hui ce que vous faites pour qu'on puisse ensuite avancer sur l'initiative en question.
Eh bien alors, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'immobilier. J'ai travaillé dans différents groupes, sur différents types d'actifs immobiliers, que ce soit de la promotion immobilière, de l'asset management. Et j'ai rejoint Swiss Life Asset Managers il y a maintenant 7 ans en tant que gérant de fonds immobiliers. Et je gère différents fonds à thématique principalement sur l'hébergement. L'hébergement au sens large, donc c'est le logement libre, le logement intermédiaire, les résidences gérées, étudiantes, résidences services seniors, et puis des logements alternatifs, que ce soit le co-living, et puis également à vocation sociale, comme le fonds immobilier Impact Investing.
D'accord. Et pour bien resituer du coup le lien entre Swiss Life et Swiss Life Asset Manager.
Alors, Swiss Life Asset Manager, en fait, est une filiale de Swiss Life. En fait, notre métier, en fait, est du conseil en investissement pour compte propre, donc pour le groupe d'assurance, mais également pour compte de tiers, donc pour différents clients institutionnels qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier, sachant qu'on fait aussi du conseil pour l'immobilier, mais également pour les valeurs mobilières. Aujourd'hui, on gère à peu près 58 milliards d'actifs sous gestion, dont un peu plus de 18 milliards en immobilier, ce qui fait un peu plus de 500 immeubles en gestion.
Ok, super, merci. Du coup, alors l'idée de cet échange, c'est d'évoquer l'initiative de janvier 2019 de créer un fonds à impact. Alors je vous avoue, quand j'ai entendu parler de la première fois de cette initiative, j'étais assez étonné. Je me suis dit, ah bon, Swiss Life est à l'origine de ce concept-là. Et je me suis dit que c'était aussi une très bonne nouvelle de voir qu'à tous les étages, en fait, il y avait des acteurs qui essayent de donner du sens et d'allier performance, sens, conviction, philanthropie, associatif. Donc j'étais vraiment très séduit par cette offre. Donc juste pour comprendre un peu la genèse, qui est à l'origine de cette réflexion et ou comment est né cet échange sur le fait de vouloir monter un fonds à impact?
Alors, en fait, nous, on a une sensibilité sur ces sujets-là depuis l'origine. Depuis notre création en 2007, Swiss Life Asset Managers, on a toujours eu cette volonté d'orienter nos projets sur ce qu'on appelle la politique ESG, donc E comme environnement, S comme social, G comme gouvernance, et de l'accentuer. Donc, on réfléchissait à justement comment passer un petit peu la vitesse supérieure. Et Cedrus et Partners, qui est notre partenaire sur ce projet-là, est venu nous voir, enfin, en fait, a lancé un appel d'offres pour justement participer à cette belle aventure de créer un fonds qui soit vraiment orienté de manière très concrète sur une forme de solidarité. On a participé à cet appel d'offres et on l'a remporté. Et du coup, avec Cedrus et Partners, on a monté ce fonds immobilier Impact Investing. Donc c'est comme ça en fait que sont mis en place les choses, la rencontre de ces deux partenaires.
Oui, bah forcément, j'imagine que c'est vraiment une rencontre. J'imagine que c'est aussi le côté humain entre les deux sociétés qui a fait naître ces initiatives. Et concernant le positionnement, il est venu assez naturellement, ou ça a été une réflexion, ou est-ce que Cedrus est arrivé avec un produit un peu tout packagé en disant voilà nos convictions, est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner?
Non, c'était assez ouvert, c'était vraiment une discussion en fait. Cedrus et Partners avaient identifié deux acteurs sociaux qui sont le SAMU Social de Paris et Habitat Humanisme. Et l'idée, c'était de savoir comment on pouvait les accompagner justement dans leur quotidien pour aider les personnes qui sont en difficulté, qui sont un peu dans une situation de précarité. Et donc, du coup, en réfléchissant avec ces acteurs sociaux et puis également Cedrus et Partners, on a mis en place ce fonds avec cette problématique, cet enjeu qui était de dire comment on peut fournir du rendement, puisque c'est quand même la vocation d'un fonds, aux investisseurs qui vont nous accompagner aussi dans l'aventure, et également aider les acteurs sociaux. Donc on a eu cette idée, voilà, de trouver un compromis entre une partie de la poche du fonds qui soit une poche dédiée au rendement et l'autre partie, à peu près 20% du fonds, qui soit dédié aux acteurs sociaux que sont Habitat Humanisme et SAMU Social de Paris.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec ces associations pour connaître leurs besoins, pour connaître leurs problématiques et pour leur apporter justement des solutions à travers ce fonds.
Exactement, l'idée c'était de... on se découvrait en fait, hein, parce que c'est deux univers qui n'ont pas l'habitude forcément de se côtoyer. Donc l'idée c'était de se comprendre et de trouver un terrain d'entente, on va dire, entre eux, leurs besoins, et puis nous, ce qui pourrait faire sens vis-à-vis des investisseurs en termes de placement immobilier, et puis également en termes d'attente financière, mais pas que, également les attentes en termes de, justement, l'impact sociétal de cette démarche. Donc il a fallu vraiment tisser ensemble ce cadre.
Donc je reviens à ce que vous avez dit sur le côté des 20%, donc 20% de loyer gratuit pour ces associations-là.
Exactement.
Comment ça a été construit, ça, en disant on va vous acheter de l'immobilier pour ensuite vous le louer, on va vous racheter l'immobilier que vous avez déjà pour que vous restiez locataire à titre gracieux. Comment s'est construit l'immobilier pour eux?
Alors, en fait, on a réfléchi ensemble par rapport à ce qu'on sait faire, par rapport à ce dont ils avaient besoin. Et en fait, naturellement, on s'est dit qu'on allait acheter des nouveaux projets, donc des projets ce qu'on appelle en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. Donc, ce sont des projets en fait à construire pour que justement ça puisse répondre aux dernières normes, aux derniers besoins, pour qu'on puisse aussi avoir le choix de la localisation un peu plus facilement, puisque finalement, ce sont des projets qu'on peut sélectionner. C'est des projets en plus qui bénéficient quand même de certaines garanties, notamment garanties décennales, donc ce qui était intéressant, puisque l'idée, in fine, c'est effectivement de leur mettre à disposition ces logements de manière gracieuse. Donc on a prévu de signer un bail sur une durée de 10 ans avec eux. La contrepartie, c'est quelque part, enfin, on dit souvent qu'on leur met à disposition l'outil, c'est à eux de l'entretenir. Donc ils payent les charges, ils payent les taxes, ils payent l'entretien de leur outil. Et au terme des 10 ans, l'idée, c'est de pouvoir récupérer le bien, puisque nous, on a une durée de vie du fonds un peu plus de 10 ans, le temps de la liquidation, en fait. Donc voilà, donc ça a été quelque part un compromis par rapport à ça.
Et quelle typologie d'actifs, du coup, donc c'est du résidentiel principalement ?
C'est que du résidentiel. Et en fait, là, on s'est accordé assez facilement, puisqu'on s'est rendu compte que les besoins de l'investisseur, en tout cas ce que recherche un investisseur classiquement sur le marché du résidentiel, correspond aux besoins des acteurs sociaux, c'est-à-dire des actifs de typologie classique T1, T2, T3, T4, bien placés. Et nous, on va essayer de chercher des actifs qui sont déjà bien placés, c'est-à-dire qui sont déjà connectés avec les transports en commun, les services, pas très loin des équipements et des commerces, mais avec dans une zone qui peut encore s'améliorer. On parle du Grand Paris Express, mais il y a d'autres projets qui se bonifient avec le temps parce que voilà, il y a des améliorations au niveau des équipements qui leur donnent encore plus de sens à l'avenir. Donc c'est ce type de projet qu'on a réfléchi, sachant que l'idée c'était de trouver aussi des projets de taille humaine, c'est-à-dire qu'on est sur des immeubles de 10 à 20, 30 logements maximum pour conserver justement un certain contrôle sur la gestion et ne pas partir sur des volumes qui seraient trop gros et qui pourraient nous échapper en termes de gestion. Donc on s'est accordé vraiment sur tous ces critères-là pour ensuite justement passer à la prospection de ce type de produits.
Et vous avez justement quelques exemples de produits, de villes ou de tailles de produits à nous donner ?
Alors oui, alors, sachant qu'on s'est réparti un peu le territoire entre SAMU Social de Paris et Habitat Humanisme. SAMU Social de Paris, globalement, se focalise principalement sur Paris intramuros. Alors, du 9 à Paris intramuros, c'est compliqué, mais on va dire plutôt Île-de-France, première couronne, voire deuxième couronne. Et Habitat Humanisme, c'est plutôt les grandes métropoles. Donc aujourd'hui, on a deux projets qu'on a actés, qui sont un qui se situe à Saint-Jacques-de-la-Lande. En fait, c'est dans la banlieue sud de Rennes. Donc c'est tout un quartier, la ZAC de la Courrouze, qui est déjà bien avancé et qui se bonifie, notamment avec l'arrivée de la station de métro qui va être au pied de l'immeuble en cours de construction. Donc ça, c'était très intéressant parce que voilà, c'est typiquement les projets qu'on recherche. C'est 14 logements, donc petit immeuble dans une zone qui va s'améliorer, qui est connectée à la banlieue, à Rennes et à sa métropole. Donc c'était très intéressant. Et un autre projet à Villeurbanne, là au pied du métro, là aussi, un petit immeuble. Là, on est sur une vingtaine de logements, donc on reste sur des tailles humaines. Là, pareil, donc proche des transports, connecté. Donc là aussi, ça faisait tout son sens.
Et alors du coup, donc, c'est 20% de mise à disposition gratuite. Et les 80% restants, sont composés de quoi ?
Alors, les 80% restants sont composés principalement de résidences gérées, donc résidences étudiantes, résidences services seniors, et puis éventuellement une petite partie bureau, parce que l'idée aussi, c'était quand même d'avoir du levier pour faire du rendement. Et donc, le bureau présente quand même cet avantage d'offrir un peu de rendement. Donc, on est en train de peut-être de replanifier la stratégie, peut-être d'accentuer davantage sur l'hébergement, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Et sachant que ce qui est important par rapport à ce fonds, c'est deux choses. La première, c'est que toute notre politique ESG, donc environnement, social et gouvernance, on va l'appliquer à l'ensemble du fonds. C'est-à-dire qu'on ne va pas oublier ce qu'on pratique depuis plus de 10 ans sur ces sujets-là. Donc, on fait en sorte d'avoir des immeubles neufs, en VFA, donc, avec des performances énergétiques qui soient fortes, avec des prestations techniques qui nous offrent quand même un niveau de performance intéressante. Et en plus de ça, effectivement, sur les 20%, on va mettre en place un rapport extra-financier, puisque quelque part, les investisseurs qui nous accompagnent dans cette aventure tirent un trait sur une partie de leur rendement. Donc l'idée, c'est qu'on puisse leur quantifier quelque part cette contrepartie avec ce rapport extra-financier qui va être très simple, hein, qui va permettre de voir l'impact de cette démarche par rapport aux personnes qu'on aide. Donc c'est le nombre de personnes qui sont hébergées, le nombre d'enfants qui sont scolarisés, le nombre de personnes qui trouvent un emploi et le nombre de personnes qui sont réinsérées tout simplement dans le tissu social et économique. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on part sur 10 ans. Et les associations nous le disent souvent, c'est que 10 ans, c'est un temps qu'ils n'ont d'habitude pas. C'est-à-dire qu'ils travaillent tout le temps dans l'urgence, ils travaillent tout le temps en fonction des moyens dont ils disposent. Et là, quelque part, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on leur met à disposition la possibilité de prendre le temps, ce qui est rare. Et du coup, de permettre à ces personnes qui vont aider de s'installer, de retrouver des repères, de retrouver la confiance. Et le logement, finalement, c'est ça, c'est juste un levier. On n'offre pas simplement un logement pour offrir un logement, on offre un logement pour leur permettre de retrouver cette confiance, de retrouver une forme de respectabilité, en fait.
Oui, ouais, c'est pas qu'une mise à disposition de mètres carrés, c'est vraiment un côté humain, c'est un lieu où on peut rebondir, on peut redevenir autonome, on peut se réinsérer dans la vie. Si on rebondit sur le sujet justement de la performance, du côté investisseur, pour bien comprendre l'équilibre, aujourd'hui, quelle est la performance de ce fonds et à qui il s'adresse ?
Alors, le fonds, on attend une performance donc globale d'environ un rendement de 3% en phase d'exploitation. Là, on est en phase de montée en puissance, c'est-à-dire qu'on est en train de constituer le portefeuille. Et en fait, il s'adresse à tous les investisseurs qui souhaitent donner un peu plus de sens à leur patrimoine, à leur placement. Donc, on a des investisseurs qui nous ont accompagnés naturellement dans cette démarche parce qu'ils sont convaincus qu'en tant qu'investisseurs, qu'ils ont un rôle à jouer, et encore plus en ce moment avec cette période de crise sur la société, sur l'environnement, bien entendu, l'environnement, on en parle depuis très longtemps, mais également sur les impacts sociétals. Donc, certains investisseurs sont convaincus de cette démarche-là. D'autres sont dans l'interrogation et sont conscients qu'il y a des choses à faire, mais peut-être s'interrogent sur la façon de le faire. Donc, c'est à nous d'être guides par rapport à ça. Donc, j'ai envie de dire que c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, après, c'est de savoir quel sens on veut donner à son investissement.
Alors, c'est ouvert à tout le monde, mais est-ce que moi, par exemple, Alexandre Toussaint, je peux investir ?
Alors, oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux institutionnels.
D'accord.
Aux investisseurs institutionnels.
Et ça représente combien d'investisseurs à ce stade ?
Alors, aujourd'hui, on a une dizaine d'investisseurs qui nous accompagnent. Aujourd'hui, on continue la levée de fonds. Donc, on espère qu'on va on va encore augmenter le tour de table. On a investi à peu près 80 millions de fonds propres. Ça représente, une collecte d'à peu près 80 millions de fonds propres. Et donc, on espère encore grossir la collecte.
Bon, j'imagine que cette notion d'allier performance et sens, on en parle de plus en plus. Donc, je pense que vos partenaires en parlent de plus en plus. Et au-delà du contexte actuel depuis un an, vu que le fonds et l'origine du fonds date de 2019, donc il y a 2 ans, on était quand même avant. Vous n'avez pas surfé sur la vague. Alors, ça a peut-être validé votre positionnement et votre volonté de mettre en avant un biais associatif. Est-ce que du coup, il y a de plus en plus de gens intéressés par votre démarche suite au Covid et à la crise actuelle ?
Je pense que y a une curiosité. Les investisseurs, en tout cas, sont à l'écoute de ce qu'on propose. De là, franchir le pas, c'est pas toujours facile parce qu'il y a quand même une contrepartie, un abandon de rendement. Donc, c'est quand même une démarche un peu novatrice. Mais en tout cas, il y a une écoute et on espère que justement, avec ce qui se passe, peut-être que ça va nous permettre aussi à certains de franchir ce cap et nous rejoindre. Et en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut donner aussi d'autres vocations, puisque le fonds Impact Investing, c'est un des premiers fonds à impact sur la sphère immobilière. Donc l'idée, c'est aussi donner d'autres idées. Là, ce modèle-là, on l'a constitué comme ça, mais il y a d'autres modèles, d'autres façons de voir l'impact, d'autres façons d'agir sur la société. Donc voilà, avec tous les investisseurs, les sociétés de gestion, quelque part, l'idée, c'est aussi de phosphorer ensemble pour proposer d'autres choses qui fonctionnent tout autant.
Et vous disiez, donc ces associations-là, elles ont la chance et l'opportunité d'avoir un peu plus de temps, ce qu'elles ne maîtrisent pas forcément dans leur quotidien. On est allé rencontrer l'une d'elles, qui est Habitat Humanisme, alors que, pour être transparent, que je connaissais un petit peu moins. Donc je vous propose d'écouter la présentation de Bernard Devers, le président de l'association, sur leur positionnement.
Le mouvement s'est d'abord, en fait, s'est créé, s'est développé, en tout cas, à partir d'hommes et de femmes qui se sont mobilisés sur l'intuition. Quelle intuition ? Faire en sorte que de se rapprocher de ces hommes et de ces femmes qui sont des lointains, qui sont des éloignés. Ils sont éloignés de la société parce qu'en fait, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas la même culture. Ils sont dans des situations tout à fait difficiles, blessés par la vie. Ce que nous défendons comme valeur, c'est la fraternité. C'est se faire proche. Voilà l'intuition profonde d'Habitat Humanisme.
Donc on sent bien que le positionnement très humain, la société passe aussi par de l'immobilier, parce qu'il faut accueillir ces gens, il faut permettre qu'ils puissent y dormir, y manger, avant de pouvoir rebondir vers l'extérieur.
C'est exactement ça, en fait. C'est que le logement, c'est un levier pour les accompagner au quotidien. C'est-à-dire qu'après, il y a tout un travail des équipes, avec aussi les services des villes, pour leur permettre justement de se relever, en fait.
Et alors du coup, j'imagine que l'objectif d'avoir deux associations avec le SAMU social de Paris, il fallait qu'il y ait un lien quand même avec l'immobilier. Ce n'était pas juste de l'associatif pur, c'était un associatif lié à l'immobilier. Donc vous, ce que vous leur apportez, c'est effectivement un des mètres carrés, concrètement, une stabilité dans le temps avec entre 8 et 10 ans, on va dire, si on parle à hauteur d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats entre vous ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous lient avec eux ?
Alors non, en fait aujourd'hui ce qui va nous lier, c'est ce que vous avez dit, et puis ce rapport extra-financier qui nous permettre finalement de valoriser cet effort financier que font les investisseurs, et c'est quelque part, tout repose sur ce rapport là, c'est-à-dire que les investisseurs quelque part vont quantifier leur investissement à travers ce retour d'expérience, en fait.
Et bien justement, pour parler de retour d'expérience, je vous propose aussi une deuxième question qu'on a posée à Bernard Devers sur ce partenariat-là et ce que ça leur apporte.
Ils sont venus vers nous en marquant un intérêt par rapport, en fait, à notre approche, puisqu'en fait, nous créons des logements, mais nous construisons pour permettre à des personnes en situation de fragilité de vivre finalement un passage qui va les conduire à trouver plus d'autonomie. Et donc, il y a un travail d'accompagnement. C'est ce travail d'accompagnement, je crois, qui a intéressé, en fait, Swiss Life. Bien, c'est lui, c'est ces hommes et ces femmes qui sont des vrais professionnels de la finance et qui se disent, mais aussi, il faut que cette finance, elle soit aussi portée. C'est la raison d'être, en fait, de leur entreprise. La raison d'être, c'est de finalement qu'il y ait du sens. Faire sens. Et quand on fait sens, eh bien, en fait, on marque une direction, on marque une orientation. Et cette orientation les a conduits à songer à Habitat Humanisme en disant, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble ?
Donc ça vous permet d'envisager le futur plus sereinement.
Exactement. Voilà. D'envisager l'avenir plus sereinement. Et je trouve que vos mots sont tout à fait justes. Je me permets de le dire très très simplement. Dans des situations que nous connaissons actuellement, qui sont quand même tout à fait difficiles, avec cette crise sociale qui est en train aussi de poindre, et donc, il y a absolument de créer de la sérénité, des conditions de sérénité, de dire à des hommes et des femmes, on vous fait confiance. C'est-à-dire, voilà, vous n'allez pas toujours bénéficier de ces loyers gratuits, vous n'allez pas y rester 10 ans. Le sujet n'est pas là. C'est un moment difficile de votre histoire. Ce moment difficile, allez, vous allez vivre, on va vous aider à vivre cette traversée pour vous en sortir. Mais pour que ces personnes et ces femmes s'en sortent, il faut, on peut dire cela, je crois, faire sortir de terre précisément des opérations nouvelles qui sont un peu inattendues. C'est important de voir qu'en fait, au cœur de la finance, il y a précisément cette approche.
Très beau témoignage, hein. On sent que c'est aussi un beau résumé de cette initiative d'allier la finance et le sens. Et on sent bien que ça fait écho de leur côté, ça fait sens pour eux, quoi. Je trouve que ça doit être assez séduisant pour vous d'entendre le témoignage d'un locataire qui finalement est un peu plus qu'un locataire et qui a vraiment besoin de vous pour pouvoir déployer ses actes.
C'est clair que c'est vraiment, je trouve que c'est un témoignage qui est toujours touchant et puis qui est tellement, comment dire, en phase avec ce qu'on vit aujourd'hui, que c'est vrai que c'est toujours, c'est toujours agréable de voir que ce qu'on fait a du sens, et c'est aussi tout l'intérêt de cette démarche, quoi.
Et si je reprends l'une de ces citations, il disait que le modèle d'investissement proposé suscite des perspectives conférant à la finance une richesse de points, participer à une économie qui fait sens. Alors même au-delà de participer, je pense qu'on pourrait dire qu'il évolue vers une économie qui fait du sens et que c'est peut-être une nouvelle direction que doit prendre la finance, d'aller sur un schéma qui apporte plus de sens des deux côtés, pour la partie investisseur et l'autre partie. Et on a aussi, dans cette même ligne, échangé avec Christine Lacombe. Je vais juste vous citer parce qu'on n'a pas pu l'enregistrer, qui nous dit que, donc directrice générale du SAMU social de Paris, que ces lieux permettent à des familles ou à des hommes et des femmes de se stabiliser, de vivre dignement, de bénéficier d'un accompagnement social pour les aider dans leur démarche d'autonomisation. Donc c'est encore, là, je trouve que ça encore, c'est des mots très très forts. On se dit, voilà, l'immobilier, c'est pas juste des mètres carrés, c'est un vrai lieu, ce qu'on disait tout à l'heure, où on peut rebondir et se ressourcer, se retrouver pour redémarrer peut-être une nouvelle vie, quoi.
Exactement, et c'est vrai que l'hébergement, c'est très important parce que c'est un repère, c'est ce qui permet de se construire, qu'on soit seul ou en famille. Et du coup, nous, c'est notre petite contribution de proposer ces logements à ces personnes-là. Et c'est vrai qu'on est ravis de le faire avec ces deux acteurs.
Et justement, est-ce qu'on pourrait l'envisager de le faire avec d'autres associations? Est-ce que la discussion est ouverte?
Aujourd'hui, on, c'est quand même assez novateur. Donc, on part avec ces deux acteurs. Après, peut-être qu'on déploiera d'autres fonds, d'autres initiatives avec d'autres acteurs, sur peut-être d'autres modèles. Tout est ouvert. Mais pour l'instant, par rapport à ce fonds, l'idée, c'était vraiment aussi d'avoir une feuille de route, des acteurs qui soient identifiés clairs sur la durée, sur le format. Donc après, on verra comment les choses se déroulent.
Et dans les dernières acquisitions ou projets en cours, j'ai vu qu'il y avait une résidence étudiante à Dijon. Est-ce qu'avec le contexte actuel et les étudiants, il y aurait une idée de dire qu'il y a certains loyers gratuits pour ces étudiants, pour les aider aussi?
Alors aujourd'hui, elle est en construction. Donc c'est pas forcément, c'est pas encore d'actualité. Après, là, nous, sur d'autres résidences étudiantes, on essaye de réfléchir, plutôt que de la gratuité, c'est plutôt de l'aide. De l'aide à la formation, de l'aide à préparer des CV, des entretiens d'embauche, ce genre de choses. Certains de nos exploitants aussi font parfois de l'aide alimentaire ponctuellement. Donc c'est plutôt de l'aide sur ce genre de format plutôt que de la gratuité. Voilà. Sachant qu'après, sur d'autres résidences encore, ce qu'on peut être amené à faire, c'est peut-être modérer un peu les loyers pour justement les rendre plus accessibles.
Et si on essaie de parler un petit peu du futur du fonds, alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de rendre accessible ce fonds de manière plus large, de manière plus grand public, je ne sais pas, avec le financement participatif ou en faisant des poches ou certaines poches dédiées aux particuliers qui, eux aussi, aimeraient donner un peu de sens à leur épargne?
Alors, on peut tout envisager. Après, c'est qu'il faut quand même que l'investisseur soit assez averti sur les risques qu'il prend par rapport à ce qu'on fait. Et c'est quand même aussi qu'il nous accompagne sur la durée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre que certains investisseurs en cours de route décident, par exemple, de vouloir céder leur participation, ce genre de choses. Donc, tout est envisageable. Après, il faut créer un cadre qui soit suffisamment clair pour tout le monde, pour que les règles du jeu soient acceptées et pour que ça puisse fonctionner, parce que ce genre de modèle a besoin de stabilité. L'avantage de travailler avec des institutionnels, c'est que justement, ils s'engagent sur le long terme. Après, avec plaisir pour travailler sur du grand public, mais c'est quand même une autre approche.
C'est une autre approche, c'est sûr. Et pour finir sur une note un peu plus personnelle, sur vous, votre métier à titre personnel, est-ce que travailler sur ce fonds à impact et à rencontrer ces associations, rencontrer cette nouvelle façon de faire de la finance ou faire de l'immobilier avec du sens, est-ce que ça a un peu fait évoluer votre quotidien, votre façon de travailler en disant je réalise que si on peut donner un peu plus de sens à son travail, ça peut être aussi bien?
pour moi, enfin, moi je suis ravi de travailler sur ce genre de fonds parce que c'est vrai qu'on a l'impression de participer à quelque chose d'utile, d'aider de manière indirecte. Hein. C'est une toute petite contribution, mais elle est réelle. Et puis quelque part, on rencontre des univers qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, des problématiques qui sont très... très réel et c'est vrai que dans le monde de la finance on manipule des chiffres, on est sur quelque chose des fois pas très concret, donc c'est pour ça c'est très intéressant et je trouve que oui ça amène une passion à ce qu'on fait que j'espère pouvoir communiquer pour donner d'autres vocations aussi quoi, mais c'est vrai que c'est très intéressant et de manière générale ce fonds-là, enfin sur toutes ces problématiques sociétales mais également environnementales, aujourd'hui on a un vrai rôle à jouer en tant qu'investisseur et je pense que c'est important de prendre l'importance du rôle qu'on a joué par rapport à tous ces sujets-là aujourd'hui.
Et justement chez Swiss Life Asset Manager, il y a d'autres initiatives qui vont voir le jour prochainement. Il y a d'autres réflexions en cours sur comment accompagner d'autres acteurs, d'autres associations, d'autres personnes qui sont dans le besoin éventuellement.
Alors, on réfléchit sur d'autres sujets de ce type-là. Et après, sur les fonds existants, on essaye aussi de réfléchir comment on peut aider justement nos locataires, comment on peut aider aussi justement sur tout ce qui est problématique environnementale, là sur le patrimoine existant. Donc, c'est un sujet qui est quotidien. Donc, soit sur création de fonds, soit sur du patrimoine existant, mais en tout cas, c'est au quotidien qu'on essaye de progresser sur ces thèmes-là, quoi.
Mais écoutez, Loïc, merci beaucoup pour ces aussi beaux témoignages. Je suis vraiment très heureux d'entendre que c'est un sujet quotidien de donner un peu de sens à l'immobilier. Je trouve que c'est formidable de voir toutes ces initiatives. Et comme je disais au début, à tous les niveaux, à tous les stades, cette question de donner du sens à l'immobilier, à l'épargne, à la finance est de plus en plus présente. Donc merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui dans ce nouveau studio de Radio Immo. Merci pour votre temps et encore bravo à toutes les équipes de Swiss Life Asset Management et de Cedrus pour toutes ces belles initiatives. Et puis je vous dis à vous à très bientôt pour une nouvelle mission où on essaiera de décortiquer le co-living dans les villes de taille moyenne et aussi ce patrimoine immobilier qui parfois se meurt un petit peu et qu'on peut aussi lui donner une seconde jeunesse. Merci encore Loïc, bon retour à Marseille.
Merci Alexandre.
Et à bientôt.
À bientôt.
Merci.
L'immobilier dans le bon sens, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et toutes les plateformes de streaming.